Ça y est pas. Hein.
Une spécialité vapeuse.
Non, non, c'est Lacan qui l'explique. Mais c'était, moi, j'ai vu ça dans l'édition de l'époque, de Ornicard. C'est quand même dommage, enfin bon, c'est quand même dommage. Non, c'est pas dommage, mais c'est vrai que ça va pas faciliter les choses pour les jeunes. C'est pour ça qu'il faut. C'est la seule chose intéressante, c'est de penser à l'avenir. Parce que regardez ça. Voilà. Alors là, vous avez les nœuds.
Là, on a le mouvement nœud.
Oui, là, il y a le mouvement nœud. Tenez, le mouvement nœud, Lacan le fait ici, le mouvement nœud entre le trèfle et le dessin. Il n'y a aucune explication dans le texte. Mais ça, Lacan n'en a pas donné. Hein. Il a laissé ce dessin au tableau. Diane Chevelot a projeté les deux. C'est comme ça que c'est arrivé jusqu'ici. Tant mieux. Parce qu'on voit que Lacan, il sait faire le mouvement nœud, mais il dit rien. Il ne le définit pas, il dit rien. Sur le trèfle. Et dans le séminaire sur la dissolution, il va le faire sur le borroméen. Vous voyez, même qu'il a pris soin de mettre le borroméen et le trèfle à côté. C'est ça qui va nous occuper maintenant. Bon. Voilà, vous voyez, le trèfle qui est là, le trèfle ici, le listing, vous avez là le listing, et là vous avez le Lacan. Donc ce qui est dans cette partie, c'est dans cette leçon, c'est la leçon du. La date.
C'est en fin de leçon.
Non, non, je vais vous dire la date.
C'est à la fin.
Oui, oui, je sais bien ça. C'est la date, c'est le 17 février 1976. Il fait ça. Mais là, ils ont perdu un bout. Ils ont perdu les tortillons. Vous voyez, les tortillons, c'est ce que j'appelle tortiller la ficelle de cette manière-là, la tordre. Ça éclaire quand même sur la régularité de cette série. Hein, c'est tout ce que. C'est con, enfin, c'est tout bête. Si vous me permettez. Mais c'est quand même. C'est quand même des choses aussi bêtes que ça qu'il faut quand même noter. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même. Bon, ces gens sont tellement intelligents qu'ils considèrent que s'occuper de ces trucs-là, c'est vraiment. Il faut être vraiment un crétin total. Moi, je suis un crétin total. Je suis très fier. Dans la psychanalyse, il y a des trucs qui sont vraiment rats des pâquerettes. Et si on les rate, on ne comprend plus rien du tout. Bon. Alors. Est-ce que je peux effacer? Ça va? Bon, on va ça parce que je voudrais vous raconter la suite, qui quand même va nous mettre de plein pied avec ce que nous allons étudier tout de suite après. Là, c'est quand même relativement accessible. Bon. Je laisse juste ce dessin parce que je ne l'ai pas mis d'une manière symétrique. Donc, ça reste une question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis habituellement, à l'école normale, ici, rue d'Ulme, il y avait des tableaux avec de la craie. Alors moi, j'ai amené plein de craie dans mon portable, et puis voilà, je me retrouve avec deux feutres, rouge et vert, non, rouge et bleu. Et c'est moins bien, parce que je pourrais mettre plus de couleurs. Bon, la semaine prochaine, dans deux semaines, on va revenir ici, je vais prévoir ça. Bon, alors voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez le nœud de Lacan que je vais dessiner donc comme ça. Voilà. Le nœud de Lacan, si vous mettez des couleurs dans les zones qui sont là, qui sont ici et là, et ici vous mettez une autre couleur, c'est la même que celle qui filme les pontilles, j'ai pas d'autre feu. Hein. Voilà. Vous voyez que vous pouvez colorer les zones que j'appelle les zones pleines, qui déterminent une surface, que j'appelle la surface d'Empan. Et ces zones, elles se colorient. Qu'est-ce que c'est que ce nœud de Lacan? C'est un tore troué. La surface d'Empan du nœud de Lacan, c'est un tore troué. C'est un tore avec un trou, et le bord du trou, il fait un nœud. C'est donc un tore troué qui est noué. Et c'est la même chose pour le trèfle. Mais pas pour le trèfle qui se présente comme un trèfle, pour le dual du trèfle. Le dual du trèfle, vous voyez, pareil, Mais lui, c'est le dual du prêtre. Il a aussi un coloriage sans coupure. C'est un pur non-nœud. Dans le nœud, j'appelle ça un non-nœud. Puisque les nœuds sont ceux qui ont besoin d'une coupure. Alors, je vous montre la différence avec la coupure. Regardez, si vous avez comme ça un nœud, le nœud trèfle, si vous le présentez en trèfle, ben là, pour, ça, c'est une bande homomie. Ça, c'est un tort troué. Ça, c'est un tort. Hein, troué. Dans les deux cas. Mais lui, il se présente d'une manière plus simple comme ça. Et pour orienter cette surface, il faut rajouter une coupure qui passe ici, comme sur la bande de Möbius. Hein? Vous voyez, si vous avez une bande de Möbius, vous savez qu'une bande de Möbius, si je vous la dessine bien, comme ça, plus conséquente, ici, comme ça, le bord passe là. Vous voyez bien que vous pouvez réorienter une bande de Möbius grâce à une coupure simple. Et à ce moment-là, vous avez la couleur qui est là, le rouge par exemple, qui est la couleur d'une face qui s'oppose à l'autre face qui est bleue. Quelle est la différence qu'il y a entre cette situation Möbius ou plan projectif qu'on retrouve là aussi, vous voyez, dans le trèfle. Vous avez besoin de mettre une coupure, alors que ceux-là, ils n'ont pas besoin de coupure. Bon, ça se trouve dans nœud, mais je peux revenir sur des choses qui sont dans nœud, si vous avez des questions à poser, c'est justement l'occasion. C'est l'occasion de prendre le bouquin qui s'appelle « Nœud » et de voir que tout ça, c'est défini comme une méthode de lecture des nœuds. Donc voilà, les nœuds gagnants sont ceux qui sont bicolorables, mais il se trouve qu'il y a des duos de trèfles qui sont aussi bicolorables. Donc on va regarder ces nœuds qui sont bicolorables, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Quand on peut, il y a des nœuds, ils ont une coupure des deux côtés. Vous prenez le nœud, vous prenez le dual, vous changez de présentation, vous pouvez prendre toutes les présentations, il y a toujours besoin d'une coupure. Et puis vous avez des nœuds qui, eux, au contraire, ont un côté sans coupure. Comme ça. Et l'autre côté avec une coupure. Celui-là, si vous prenez le dual, il y a une coupure. Je vais vous dessiner le dual de celui-là. Le dual de celui-là, je vais le dessiner comme ça. Je vais le dessiner comme ça. Regardez le dual de celui-là, je vais vous dessiner. Voilà. Comme ça. Donc qu'est-ce que c'est que le nœud de Lacan? Si je le mets dans sa présentation duale, vous voyez, c'est-à-dire que c'est cette arc-là que j'ai fait passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté, du coup, ici, il passe dans la boucle. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Ben ici, il y a besoin de, pour orienter, il y a besoin d'une coupure. Il faut faire passer la coupure par tous les croisements. Alors là, on va avoir un premier théorème, enfin, on peut appeler ça un théorème si on veut, mais on peut avoir une première chose à remarquer, c'est que les nœuds de Lacan, ils ont comme dual des nœuds qui sont pure coupure, qui sont coupure et pure coupure, c'est-à-dire que la coupure passe par tous les croisements. D'un côté, il n'y en a pas, coupure. De l'autre côté, il y en a une qui passe par tous les croisements. Et ces nœuds-là, on va apprendre à les repérer dans la table de Rolfsten. Alors, la table de Rolfsten, vous l'avez, elle se trouve dans le site de topologie en extension. Dans ma page, non, mais dans le site de topologie en extension. Que ce soit topologie en extension à Paris ou à Buenos Aires, il y a deux sites. Hein. Il y en a un, topologie en extension à Buenos Aires, topologie en extension à Paris. Ils ont mis, dans les deux, il y a le même dessin comme entrée. Ils ont copié à Buenos Aires, ils ont copié exactement le site de Paris. C'est sympa. Bon, Ils ont pris même ça, on ne sait pas très bien sur lequel on est, mais il y en a un qui est écrit en espagnol, l'autre en français, c'est pour ça qu'on peut dire. Donc, la table de Rolfsen, vous la trouvez sur le site de Topologie Extension, vous voyez, c'est cette table. Et ça, ce que je vous montre là, ce que je peux vous envoyer, alors voilà, comme on n'est pas à la NSA ici, je ne vais pas vous espionner, vous allez m'envoyer, si vous voulez, un email, une adresse email, que je vous envoie ça. D'accord ? Vous me l'envoyez à mon adresse, et si vous courez le risque, parce que peut-être qu'il espionne, hein, je ne sais pas qui. Bon, peut-être les Portugais. Bon, toujours est-il que moi, vous pouvez courir le risque de m'envoyer votre adresse email, et à ce moment-là, alors sans message, vous n'avez pas besoin de me raconter des histoires, hein. Vous m'envoyez votre adresse et moi je vous envoie ça. Même ceux qui pensent que j'ai leur adresse, hein, envoyez-la à moi parce que je sache qui veut la, que je lui envoie ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et bien, c'est la table de Rolfsen, de Dale Rolfsen, dans son livre qui s'appelle Notes and Links, dans Publish or Perish, qui est publié en Californie, mais que c'est un livre très fameux en théorie des nœuds. Il est pas mal, c'est, il a fait ça principalement. Alors j'ai redessiné les premiers, mais les autres c'est ceux de Rolfsen. J'ai redessiné les premiers, puisque de toute façon je voulais les colorer. Alors qu'est-ce qu'on constate? C'est que voilà, ici ils sont classés par des gens successifs. Il y a une dame qui a fait ça à Paris. Il y a ensuite un type qui a fait ça à Rosario, puis ensuite une autre dame qui a fait ça à Buenos Aires. Enfin bon, il y a plusieurs personnes au cours des années qui ont suivi mon conseil et qui ont bien voulu suivre ce conseil, c'est-à-dire de dire que sur cette table de Rolfsen, on pouvait compter le nombre de nœuds dans chaque objet. Et donc, vous voyez, voilà, les deux premières pages, c'est tous les nœuds de la table de Rolfsen qui ont un nœud, qu'on peut défaire avec juste un mouvement nœud. Vous voyez ? Bon. Il y en a, ils sont placés par 5, ça fait 10, 20, 30, 35, 37, plus 2 non alternés. On peut les défaire avec un mouvement nœud. Ce sont des nœuds qui sont des nœuds les moins noués. Ça ne se voit pas, c'est pas évident. Hein. Et puis ensuite, la page suivante, c'est pour ça que j'ai mis deux, les deux pages suivantes, c'est ceux qui ont deux nœuds. Vous voyez, c'est les nœuds propres, hein. Ça, ce sont que des nœuds faits avec un seul fil. Il n'y a pas de Borromien, il n'y a pas de Weipel, il n'y a qu'un seul fil, vous voyez. Tout cela, il y a deux nœuds. Bon, il y en a un peu plus. Tout cela, c'est trois nœuds. Tiens, il y a un, ça décroît de nouveau, c'est décroissant, il y en a moins. Alors ça fait un gros fichier, hein, je l'ai laissé passer, je l'ai déjà envoyé à plusieurs, je l'ai même envoyé aux Canadiens, ils l'ont reçu. Bon, donc ça peut traverser l'Atlantique, ça devrait pouvoir vous arriver, vous voyez. Bon, ça c'est quand il y en a quatre. Donc on s'y est mis à plusieurs, moi je l'ai fait de mon côté, les gens dont je vous parle l'ont fait de leur côté, pour qu'on puisse recouper les résultats et puis finir finalement, bon. Il y a peut-être encore des erreurs, hein. Si ça vous amuse de vérifier, vous pouvez essayer de les défaire avec un mouvement nœud, deux mouvements nœuds, trois mouvements nœuds, quatre mouvements nœuds. Mais regardez, quatre mouvements nœuds, il y en a encore pas mal, hein. Il y en a moins déjà, ça diminue. Et là, on arrive dans des zones où il y a cinq mouvements nœuds, parce que dans Rolfsen, il y a des nœuds qui ne font que jusqu'à 9 croisements. Ah non, peut-être un peu plus, 10 croisements. Et donc là, vous avez, à 5 nœuds, il n'y en a plus beaucoup, vous voyez. Et puis à 6 nœuds, il y en a encore moins. Ben, c'est normal. Puisqu'il faut augmenter le nombre de croisements pour avoir plus de nœuds, pour tortiller le truc plus. Ah voilà, là, à 7 nœuds, il y en a encore moins. Et à 8 nœuds, à 9 nœuds et à 10 nœuds, il n'y en a qu'un de chaque dans Rolfsen. Donc on va dire que c'est décroissant. Le nombre d'objets... Quand on prend tous les nœuds, on peut faire jusqu'à 10 croisements. Le plus petit nœud, il a 3 croisements, c'est celui-là. Ensuite, vous avez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 secondes. D'accord ? Les nœuds faits avec un seul fil. Et si maintenant vous regardez quelle est leur, non pas leur description graphique, le nombre de croisements c'est graphique, ça se lit sur la figure. Quelque chose qui ne se lit pas sur la figure que j'appelle plasticité nodale. Vous voyez, ça vous donnera l'idée qu'il y a quelque chose comme ça que justement tout structuralisme a raté. Donc, ça, ils confondent la description graphique avec la plasticité nodale. Vous voyez, tout le monde confond les mots avec les mots écrits, par exemple. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que le phonème. Hein. Toute l'histoire du structuralisme en France, vous avez vu, il y a un livre vachement bien qui a été fait par Maniglier et puis qui est lui des tas de gens avec lui, qui s'appelle Le moment philosophique des années 60 en France. Ça, je vous conseille ça, vous allez voir, ils disent que c'est très important. Ils revisitent tout ce que les gens ont écrit à l'époque et ils font un truc très bien sur Derrida. Il y a un type qui a écrit un article qui s'appelle « Ce que Derrida n'a pas lu dans le cours de linguistique générale de Saussure ». C'est pas qu'il a raté quelque chose dans le cours, c'est que c'était pas écrit dans le cours. Et que Derrida, il critique le cours, justement, en disant que dans le cours, et les mecs, ils confondent l'écriture avec la langue. C'est vachement bien, Derrida. Non, le problème, c'est que justement, depuis, on a les manuscrits de Saussure lui-même, par ses élèves, et on s'aperçoit dans les manuscrits de Saussure, ce qu'elle n'a pas pu lire Derrida, c'est que justement, Saussure, lui, il avait tout à fait cette notion, et il gueule contre les gens qui confondent la langue écrite et la langue parlée. Donc, dans la grammatologie, je vous conseille le chapitre 2, et là, le type qui écrit un article sur Derrida, qui s'appelle comme ça, là, ce que Derrida n'a pas pu lire dans le cours de Saussure, hein, eh bien, c'est très bien. Je vous ferai remarquer qu'il cite Lacan dans ce livre, hein, mais il n'y a pas un article sur Lacan. Vous voyez, il y a les parties, c'est la table des matières, c'est moment épistémologique, Lévi-Strauss. Déjà, c'est mieux que Milner, parce que Milner, il n'avait même pas osé lire Lévi-Strauss dans le périple structural. Vous connaissez le périple structural. Milner, c'était déjà assez faiblard. Quand ça devient intéressant, il dit plus. Parce que comme ça, ça préfère pouvoir cracher du venin. Alors, il lit des mots qui sont perdus. Là, il y a quand même un. Deuxième partie, Lévi-Strauss, c'est pas mal. Troisième partie, un moment politique. Quatrième partie, Althusser. Bon, on est en plein dans l'école normale. On est à notre place ici. On est là. Cinquième partie, un moment philosophique, Derrida. Eh bien, c'est très bien, c'est pas mal ce qu'ils écrivent sur Derrida. Moment esthétique, Lyotard. Alors là, c'est un escroc total, Lyotard. Vous voyez, c'est postmoderne, vous savez, c'est quand même une catastrophe. Bon. C'est un mec genre Malraux, il veut pas piquer des statues dans les pans encore, mais il a piqué les séminaires de Lacan pour faire sa thèse. Hein, le discours figure, c'est un remake du séminaire qu'il avait suivi ici en 64. Hein, les fondements de la psychanalyse, avec l'anamorphose des ambassadeurs. Lyotard, c'est une canaille. Bon. Il suivait tout le temps Deleuze comme un petit chien. Il essayait, bon, il a réussi, hein, il a réussi. Aujourd'hui, il paraît qu'il a pignon sur rue, formidable, Lyotard. C'est un grand penseur. On sait comme Badiou, c'est chez nous. Alors bon, mais non, ce qui est intéressant, c'est de lire Derrida. Le Derrida. Mais vous avez remarqué qu'il cite Lacan parmi ses soi-disant structuralistes. Mais il n'y a pas un truc sur Lacan. Pourquoi ? Parce que Lacan, c'est vraiment un lire. C'est un peu difficile. Alors, il y a quelqu'un qui, à l'époque, avait fait un truc du même genre. C'est passé, moi, c'est François Vaz, dans ce fameux bouquin qui est paru au seuil, qui s'appelle « Qu'est-ce que le structuralisme ?» Vous avez connu ça. Si vous étiez, comme moi, vous étiez jeune à l'époque. Bon, si vous ne l'avez pas connu à l'époque, vous pouvez connaître maintenant. Ça s'appelle « Qu'est-ce que le structuralisme ?» C'est en occasion, en point, seuil. « Qu'est-ce que le structuralisme ?» Il y a 5 volumes. Hein, il y en a, vous voyez, c'est François Vall qui a dirigé le truc. Et Safouin a fait « Le structuralisme en psychanalyse ». C'est pas mal. C'est ce qu'il avait entendu dans le séminaire de Lacan, dans l'éthique et dans le transfert. Non, c'est bien, c'est bien, mais c'est pas. Enfin, c'était ça s'arrête, c'est dans les années 60, hein, c'est au début des années 60. Bon, qu'est-ce qu'il dit François Vall à propos de la philosophie et le structuralisme ? Ben, regardez, c'est bien simple. Alors, le mot d'ordre, c'est le signe. il a raison, c'est le signe. Mais le problème, c'est que c'est pas le signe, justement. Parce que le signe, c'est le truc saussurien qui détruit le machin. Qui détruit quoi ? Il détruit ce que Jacobson nous explique, hein, vous m'avez dit que vous l'avez lu, ça,
oui.
Si le son, sur le son essence.
Ah, oui.
Au lieu de lire Saussure, vous pouvez lire les manuscrits de Saussure maintenant, mais vous pouvez aussi lire Jacobson, mais si le son, sur le son et le sens. Magnifique.
Le truc que j'ai retenu qui est intéressant, c'est que le phonème est bidimensionnel, est une surface.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Le problème, c'est que ce que dit bien. Jacobson, dès le début, il dit bon, quelle est la différence entre la phonétique et la phonologie ? Tout le monde patine. Alors on met Saussure qui a essayé de récupérer le truc puisque Bonson Courtenay n'avait pas pu développer son programme à cause. Parce qu'à l'époque, on faisait comme aujourd'hui, vous savez, dans l'évolution, c'est Darwin. Et... Bon, alors je trouve ce point intéressant, le phonème, pour les gens qui pensent quelque chose en termes d'évolution. C'est inévitable. Qu'est-ce que c'est que le phonème ? C'est pas les sons de la phonétique. Qu'est-ce que c'est que la phonologie ? Je vais vous dire ça. Si vous lisez Trubetskoy, vous avez un critère spécial qui va vous dire qu'est-ce que c'est que le phonème. Et ça, vous pouvez le mettre dans votre poche et puis attendre un moment que ça mûrisse. Mais le phonème, c'est le fait que quand quelqu'un parle une langue étrangère, il ne s'intéresse pas du tout au son, il n'utilise pas les phonèmes de la langue étrangère, il utilise les siens. C'est une inertie dans la parole, le phonème. C'est pour ça que quand vous avez passé 15-16 ans et que vous avez fixé votre appareil phonatoire, vous ne disposez plus de tous les phonèmes comme quand vous êtes tout bébé, tout petit. Tous les enfants du monde possèdent la palette des phonèmes en entier. Et ça se fixe entre 12, 14, 16 ans. Et là, mais le sujet, il ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme les noms du père, les phonèmes. C'est des trucs, c'est... banal pour moi, mais exceptionnel pour les autres. Les autres, ils se rendent très bien compte que je parle espagnol comme une vache française. Parce que moi, je parle avec des phonèmes français. Alors les chauffeurs de taxi, à bonheur, ils me disent « Non, mais continuez, c'est tellement délicieux le français. » Moi, j'ai honte, parce que c'est détruire la langue de quelqu'un d'autre que de le parler avec les phonèmes de sa langue. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des phonèmes. C'est parce que les phonèmes, c'est pas les sons. Et les premiers critères de distinction des phonèmes chez Trubetskoy, qui a écrit les principes de phonologie, vous lisez ça, ne serait-ce que ça, les règles qu'il donne pour lire, pour analyser les phonèmes. Vous verrez que c'est toujours une façon de distinguer entre la façon de parler, confondre les sons de la phonétique, avec la façon de les dire qui est le phonème. Vous voyez, toutes les manières. Alors, on peut dire que c'est des sons différents. Oui, c'est des sons différents, mais c'est vous avez le rota espagnol, là, comme ça. Quand vous êtes français, c'est zéro. Tout de suite, ils se moquent. Ben oui, ils ont raison. D'ailleurs, nous, on se moque bien des Espagnols quand ils parlaient français. Non. Bon, c'est un ethnocentrisme, un linguicentrisme, à mon avis, insupportable. Enfin, c'est ça qui fait que. Il y a une différence entre la phonétique et les phonèmes, et la phonologie. Bon. Alors, François Ball, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans ? On va bientôt s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait, François Ball ? Regardez, il a écrit une introduction générale pour toute la série de bouquins, et puis à l'époque, il a fait un truc sur la philosophie. Y a-t-il une épistémée là-dedans ? Vous allez retrouver aussi dans le bouquin de maintenant, là, l'épistémée et le structural. Y a-t-il une épistémée structuraliste ? Foucault. Très bien. Et puis, deuxième partie, je vous donne en mille, de quoi il cause ? Ben, il cause de Derrida. La structure, le sujet, la trace. C'est deux philosophies au-delà du structuralisme. Là, il pousse un peu, hein, François. Deux philosophies, c'est pas sûr que Lacan soit une philosophie. Mais... au-delà, alors là, au-delà, je ne sais pas non plus. Mais par contre, ça s'appelle Jacques Lacan et Jacques Derrida. Et lui, il parle de Derrida, il parle effectivement de la grammatologie, et c'est très bien. Mais lui, à l'époque, il avait encore le courage, peut-être parce qu'il est proche de Safran, il a publié Lacan, il a aidé Lacan à publier les écrits. Bon, François Ball, c'était Seuil qui a aidé Lacan à publier les écrits. Bon, vous voyez, vous avez Lacan, Derrida. Bon. Donc, ce qu'on fait ici, hein, c'est pas à la page, parce que Bon, il se trouve que actuellement, là, Lacan, il a un peu coulé dans ce gros livre. Il a un peu coulé parce que...
Comment ça s'appelle, ça?
Le gros, ça s'appelle « Le moment philosophique des années 60 en France ». C'est très bien parce qu'il faudrait enfin s'en occuper et il s'en occupe bien. Il y a des très bonnes choses. Oui. Bon, il y a encore un article de Milner qui jette du venin, là, qui parle des petits intellectuels bourgeois. Il devient de plus en plus gâteux. Bon, bien sûr que moi je suis un petit intellectuel bourgeois, je ne suis pas un grand intellectuel bourgeois. Un petit, tout petit. Mais justement, moi je pense que Lacan c'est fait pour les petits, tout petits intellectuels pas bourgeois, voyous, peut-être même, bandits, enfin, classe dangereuse, classe laborieuse. Bon. Alors voilà, je finis, on va s'arrêter là. Regardez, qu'est-ce que vous constatez sur ces feuilles? Je vous les ai déjà montrées une fois. Quand il y a un nœud, vous voyez, il n'y a qu'un seul nœud qui est dual de Lacan, c'est le prêtre. Il n'y en a qu'un seul qui est bicolorable. Tous les autres, il faut une coupure. Quand il y a deux nœuds, il n'y en a encore qu'un, c'est le nœud de Lacan. Il est là, le nœud de Lacan, vous voyez? Bon, regardez, quand il y a trois nœuds, ah, il y en a deux, tiens. Il y en a deux quand il y a trois nœuds, ça augmente. OK? Regardez, quand il y a quatre nœuds, ah, il y en a quatre. Hein? Quand il y a quatre nœuds, il y en a encore deux pages, hein, de nœuds de quatre, mais il n'y en a plus qu'une page. Hein. Il y en a une page, je n'ai pas beaucoup. Et là, maintenant, il y en a, à cinq nœuds, il y en a cinq, et puis il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. Il commence à pousser les autres du coude et prendre toute la place. Regardez, et puis quand on continue, là, ils sont tous sous Lacan. Là, on est à 7. Alors, j'ai sauté 5, 6. J'ai 6. Regardez, 6, ils sont... Eh bien, ils sont déjà tous nœuds. À 6, ils sont tous nœuds de Lacan. On va plus jusqu'à 9 croisements, hein, si vous avez, jusqu'à 10 croisements. Si vous ajoutez 11 croisements, 12 croisements, voilà, vous allez en voir apparaître qu'ils ne sont pas Lacan. Je ne dis pas le contraire. Mais regardez que pour un certain ordre donné, vous avez ce que j'appellerais une exponentielle inversée. Il y a une augmentation exponentielle des nœuds de Lacan. Ils partent en flèche, alors que les autres, au contraire, ils s'assèchent. Vous voyez? Regardez, là, ils sont tous Lacan, et puis là, il n'y en a plus que un dans chaque cas, mais les trois sont Lacan. Vous voyez? C'est pas mal, non? Donc, moi, je me suis dit, il faudrait quand même s'occuper de cela, d'abord. Parce que c'est Lacan qui a dit c'est le nœud de Lacan pour déconner. Mais vous voyez, là, on s'aperçoit que le nœud de Lacan, peut-être qu'il y a cette espèce de rapport, de relation, je ne sais pas comment, de proportion inversée, comme ça, qui fait que on se dit, mais peut-être que le vieux Lacan, il a peut-être. Il nous dit quelque chose, là. Bon, allons voir. Ça, hein, finalement, avant de creuser, on peut aller voir. Ça sera une occupation pas plus bête que celle de. D'utiliser un ordinateur. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer. Alors ça, je vous l'envoie, si vous voulez l'avoir dans vos archives. Mais vous m'envoyez un email vide. Vous pouvez juste me dire, par exemple, dans l'objet, vous dites, d'ailleurs, on veut la table des deux de Lacan que vous nous avez montré. Enfin, vous pouvez écrire ce que vous voulez. OK? Et donc la semaine prochaine, on se retrouve à la maison des mines qui est juste à côté dans la rue Saint-Jacques.
C'est la maison du pont.
Oui, et à la semaine suivante, on revient ici. La maison des mines et des ponts et chaussées. Bon. Alors, je vous dis bonsoir. Bonsoir.
Oui, mais il faut déjà avoir la machine à prendre. C'est ça, la machine. Et là, c'est pas.
On commencera par des questions, hein, si vous avez des questions à poser dans la semaine, si vous vous soucier à ça.
C'est quoi ça? C'est du whisky, je vous souhaite. Allez.
Comment je vais voir?
C'est pas ça? Non, c'est pas mal, hein. C'est du bel. Belle image.
Ça va vous plaire.
Oui, je vois. Le frigo. Je suis tellement passionné que je n'avais pas vu.